Voilà, alors tout à l'heure, on disait, il y a des... C'est bien que le Seigneur fasse reculer les montagnes, parce que justement, il y a des montagnes financières à faire reculer. Hein. Donc, on s'attend à ce que le Seigneur bénisse et qu'il nous conduise dans toutes les choses. Je vais prier. Et Seigneur, je vais te demander, Seigneur, ta grâce, Seigneur, de ces moments, Seigneur, que nous passons ensemble. Parce que toi seul, Seigneur, dispense les bonnes choses à notre égard, celles qui ont un impact sur l'éternité, celles qui ont du sens, Seigneur, à tes yeux. Seigneur, et je remets tes Seigneurs à chacun, à chacune d'entre nous pour ce temps de partage de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc on parle de reculer les montagnes et on cherche aussi la bénédiction de Dieu. Je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de savoir que le plan et le projet de Dieu, c'est bien sûr nous bénir. Et ce passage de Proverbe 10, 22, donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Des fois, on la recherche pour notre vie, et en tant que croyant, c'est normal de s'attendre à Dieu dans notre vie pour ce qu'il peut faire et ce qu'il peut accomplir, en tout cas déjà de notre regard de bien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction de l'Éternel? On dit souvent, on le dit souvent, moi-même je le dis dans la prière, Seigneur bénis-moi. Seigneur je m'attends à toi, Seigneur bénis-moi. Et on peut souvent l'entendre, on peut souvent le dire, je crois que c'est une bonne chose que de chercher la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que la bénédiction de Dieu c'est spécifiquement tout ce qui nous fait du bien? Tout ce qui va dans notre sens? Je crois que bon, on a déjà la réponse. C'est pas forcément le cas. Des fois, Dieu nous donne et il nous donne pas là où on s'attend. Et c'est vrai, pas plus tard qu'hier, Johan il disait, mais quand même, papa, mon fils, quand même, papa, c'est pas juste. Tout le temps, quand je fais une proposition, tu me dis non. Ben, c'est pas que je veux te dire non, c'est que c'est pas le moment ou c'est pas maintenant. Et ça arrive des fois que je lui dise oui, il s'en rend pas compte, parce que ça va tout seul quand ça se passe comme ça. Mais quand il y a des freins, quand il y a des obstacles, en général, ça, on s'en rend bien compte. Et du coup, ça, je voudrais nous amener à nous interroger sur le sens de la bénédiction. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de partager là-dessus, ici même d'ailleurs, mais il y avait tellement peu de gens que Marc m'avait proposé de le repartager. Puis ça n'a jamais été fait. Je ne l'ai jamais fait, en plus, c'est jamais trop évident de repartager quelque chose. Mais là, j'ai repris ce partage et je trouve qu'il y a quelque chose à en tirer et dans lequel on peut aussi voir le regard de Dieu sur le sens de ce mot-là, bénédiction. Donc l'origine de la bénédiction, on la trouve où ? On la trouve dans la Genèse. Voilà. Dans le tout début, au commencement. Hein ? On la trouve dans la Bible, ouais, d'accord, ok. Ça, c'est une manière un petit peu d'esquiver. Donc, au tout commencement, Dieu a béni. Et c'est l'action d'abord de Dieu à l'égard des hommes. De Dieu envers les hommes. Et les premières fois où Dieu bénit, donc c'est dans le récit de la création. Dans la Genèse, chapitre 1, versets 20 à 28 et 2 à 2, et au chapitre 2 aussi, il y a plusieurs actes de bénédiction. Dieu donne la création. Dieu fait la création. Dieu met en mouvement, Dieu met en place la création. Et il y a plusieurs passages dans lesquels Dieu dit qu'il bénit. Alors on peut le prendre parce que c'est pas très loin dans la Bible. Je pense que c'est pas difficile à trouver, n'est-ce pas? Ah si, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses dans la mienne avant. Beaucoup d'explications. Donc, au chapitre 1, versets 20 à 28, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa ainsi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les eaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et comme ça, on a des passages. Dans le récit de la création, il y a le cinquième jour, il y a le sixième jour, donc les animaux, l'homme, la femme, le septième jour, le repos de Dieu. Et à chaque fois, il est question de bénédiction au sens de Dieu, au sens où Dieu l'entend. Et cette bénédiction est associée à la notion de prospérer, de multiplier, d'être fécond, de porter du fruit. Le travail, l'appel, la mission, l'envoi, tout ça, ce sont des moyens par lesquels Dieu donne le moyen d'être fécond. Et alors, il y a un terme. Alors, je veux pas vous casser la tête avec l'hébreu, mais il y a un terme particulier, et ça vaut quand même le coup de le mentionner. Il y a un terme particulier pour bénir. La bénédiction en hébreu, c'est barach. Ça veut dire bénir, c'est trois lettres qui, dans le passage de la création, reviennent régulièrement. Et dans ce passage de la création, ce terme ne fait référence que à la création animée, vivante, aux êtres vivants. Les plantes, visiblement, ne sont pas impliquées. Elles, ça se fait tout seul. D'accord ? Mais ça implique, en tout cas, la communion de deux êtres. La bénédiction, au sens d'être fécond, au sens de pouvoir porter du fruit, au sens de pouvoir se multiplier, ça implique de ne pas être tout seul. Mais ça implique la notion de deux êtres. Et c'est l'acte par lequel Dieu inscrit la création dans un mandat. Et il met en marche le moteur. Il met en marche le moteur de la vie, après avoir lui-même construit les choses, pensé, élaboré. Il place l'homme dans un processus multiplicateur. Le début de toute chose, c'est Dieu qui multiplie, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui fait toute chose, et il place l'homme, il place la création au centre de cette fonction même qu'il a lui-même initiée, de pouvoir multiplier, de pouvoir produire, de pouvoir être plus nombreux. C'est le point de départ vers l'éternité. C'est le point de départ. Dieu est dans l'éternité. Adam et Ève vivaient une relation privilégiée avec Dieu. Et ce qui a posé problème, ben c'est quoi ? C'est la chute de l'homme. La chute de l'homme qui a signifié quelque chose de particulier, c'est la perte de cette relation qu'il avait avec Dieu. La perte de ce sens de sa vie qui était dépendant de Dieu et qui, dans cette dépendance, trouvait une orientation, une direction, une éternité, trouver la vie. Et la conséquence de ça, c'est l'inverse de la bénédiction, c'est la malédiction. On avait la bénédiction qui avait une portée éternelle, qui avait une portée multiplicatrice, qui avait une portée constructive dans la vie de l'homme. Et cette bénédiction a pris le sens inverse de la malédiction, qui elle est destructrice, qui elle rabaisse, qui elle isole. Et le projet du diable, lorsqu'il veut nous tendre un piège, c'est celui-là même de nous isoler déjà, n'est-ce pas ? C'est celui-là même par lequel nous on est là, on est dans une relation avec Dieu, il y a quelque chose, il y a un problème, ok, j'ai besoin de revenir à Dieu, et l'objectif du diable, c'est de nous isoler, et de nous mettre dans un coin, et de nous frapper. Et de nous frapper, et de nous dire, mais toi, tu pourras jamais revenir vers Dieu. Mais toi, tu ne pourras jamais retrouver cette relation-là. Et l'effort de Dieu, c'est de dire, toi, tu peux retrouver cette relation avec moi. Tu peux revenir vers moi. Parce que c'est l'objectif, c'est le but que tout homme, qui est planté dans l'esprit, dans l'âme de tout homme, revenir vers Dieu. On s'étonne combien de fois les gens ne veulent pas parler de Dieu. Mais combien finalement ils en arrivent quand même à parler de choses spirituelles. Moi je suis toujours étonné que d'une manière ou d'une autre, les gens ont cet appel spirituel dans leur cœur. Parce que ancré en nous, il y a ce besoin d'avoir une relation avec cet être suprême. Ou des fois beaucoup de personnes ne le connaissent pas, ne disent pas, ne savent pas, ont cette recherche mais ne le connaissent pas. Il y a ce besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et lorsqu'il y a la malédiction, la conséquence, c'est que Dieu détourne son regard. Dans Lévitique, chapitre 26 et verset 9, il est dit, Dieu parle et dit, « Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Je vous multiplierai. » C'est le regard de Dieu qui, dans notre vie, lorsque le regard de Dieu se tourne sur notre vie, c'est ce regard-là qui nous donne de pouvoir porter du fruit. C'est pas mes forces, c'est pas mes capacités, c'est pas ce que je suis en mesure de faire, c'est parce que Dieu porte un regard favorable sur ma vie. Et parce que ce regard est favorable, alors la conséquence, c'est la vie. La conséquence, c'est la multiplication. La conséquence, c'est la réussite. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. La bénédiction, c'est donc Dieu qui tourne son regard vers nous. Dans le processus de la création, Dieu n'a pas fait que parler. Et ça, des fois, peut-être on peut lire le passage, mais il a regardé. Il a regardé et il vit que cela était bon. Il a regardé. Et ce regard-là, c'est le regard de bénédiction. Est-ce qu'on veut que Dieu regarde notre vie? Amen. Je crois que justement, en tant que croyant, l'objectif de notre vie, c'est d'être ouverte entièrement à Dieu. Qu'il n'y ait rien de caché, rien d'isolé, puisque la conséquence de la malédiction, la conséquence du péché d'Adam et Ève, c'est justement qu'ils se sont cachés. Donc, ils se sont cachés de quoi? Ils se sont cachés du regard de Dieu. Alors là même que c'était ce regard-là qui pouvait les rendre féconds. C'est ce regard-là qui leur donnait une existence éternelle, une existence, une vie. Dans Genèse chapitre 6 et verset 8, il nous est dit que Dieu est affligé de ce que l'homme fait et il prévoit de l'exterminer. Lui et tous les êtres, tout être vivant. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Noé était serviteur de Dieu. Et Dieu l'a chargé d'une mission et il l'a remplie. Il l'a accomplie. Mais il faudra attendre la venue d'Abraham. Noé était serviteur, il faudra attendre la venue d'Abraham pour que Dieu trouve plus qu'un serviteur, qu'il trouve un ami. Dans Genèse 12, Abraham est appelé une source de bénédiction. Donc là, je refais un peu l'historique, je reprends un peu les étapes, mais c'est certainement important pour comprendre. Donc Abraham est appelé une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Encore une fois, on voit l'aspect, la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction d'Abraham se manifeste au travers d'un fils, Isaac. La bénédiction d'Abraham, c'est celle d'avoir un fils. C'est celle de pouvoir se multiplier. C'est celle de pouvoir, au-delà de lui-même, avoir un avenir sur sa descendance. Une semence qui est porteuse d'espoir et un premier-né de Sarah à un âge qui est très avancé. La bénédiction des patriarches, c'est quoi? C'est l'imposition des mains au premier-né. Les premiers-nés, ça a une signification particulière, dans la Bible. Parce que quand, pour dire premier-né, le sens de premier-né, c'est... Alors, bénédiction, c'est barach, et le sens, les premiers-nés, c'est barach. C'est juste une inversion. C'est juste une inversion de l'être. Et c'est le premier fruit de la bénédiction. Et avec Jacob, cette dimension de la bénédiction prendra une plus grande ampleur qui est celle d'Israël. Alors s'ensuit ensuite une longue histoire au cours de laquelle les hommes n'ont de cesse de pécher, de tomber, de se relever et de revenir vers Dieu et de comprendre que ce n'est que sous le regard de Dieu que leur vie a un sens. La bénédiction, c'est tout ce qui prolonge l'existence d'une génération à l'autre, d'une vie à l'autre. Pas seulement, pas systématiquement au travers peut-être de mon enfant, mais au travers de ce que nous sommes appelés, chacun et chacune d'entre nous, d'être un père et une mère aussi pour quelqu'un de notre entourage. Ça, c'est le sens de la bénédiction de Dieu. Jusqu'à ce jour où il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ce n'est pas pour rien que Christ devait être le premier-né de quelqu'un, d'une femme, le premier-né en tant qu'homme. C'est parce qu'au travers de cette naissance-là, au travers de la naissance de Christ, était annoncée la bénédiction que Dieu voulait accomplir, que Dieu voulait prolonger. Là où les générations s'arrêtent, certains se prolongent, d'autres plus ou moins bien, Dieu voulait annoncer aux générations une bénédiction qui ne s'arrête pas. Une bénédiction au travers de laquelle tout homme et toute femme sont en mesure de vivre l'éternité, de vivre la grâce, de vivre cette félicité en Dieu. Nous, notre vie, on sait qu'un jour elle s'arrêtera. Et on a entendu donc tout à l'heure la perte de notre frère. Et c'est pas une épreuve facile. C'est pas quelque chose de... On peut dire oui, il s'agit de passer. Mais nous savons justement, et ça a de quoi nous rappeler, que nous ne sommes pas éternels. Que nous sommes ici aujourd'hui, mais demain, peut-être, nous ne serons plus là. Certainement même. Ou après-demain, nous ne serons plus là. Et ça a de quoi nous faire réfléchir sur le sens de la bénédiction. Est-ce que ce sont les richesses? Est-ce que c'est la réussite professionnelle? Est-ce que c'est tellement de choses dans lesquelles je peux me retrouver content parce que j'ai acquis des victoires à droite, à gauche? La bénédiction, c'est ce au travers de quoi Dieu prolonge notre vie au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce que nous sommes. Et la plus grande bénédiction, c'est celle de Christ, qui prolonge notre vie jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. L'ange annonce à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça, c'est la bénédiction au sens de Dieu. Dieu bénit. Pas forcément au sens où on l'entend. Pas forcément de la manière dont on le conçoit. Et même si dans les moments difficiles, il peut être dur, des fois, de dire, oui, je ne sais pas trop où est-ce que Dieu agit. L'objectif de nos vies, c'est de savoir se reposer et de savoir s'affermir dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu. Ensuite, l'autre point, c'est comment est-ce que l'homme peut-il bénir Dieu, finalement? On voit comment est-ce que Dieu peut bénir l'homme, mais finalement, on peut se dire, mais comment est-ce que je peux bénir Dieu? La Bible, elle parle de bénir Dieu, n'est-ce pas? Et comment est-ce que l'homme, lui, peut bénir Dieu? Dieu est tout. Il a toute chose. Qu'est-ce qui peut le satisfaire? Qu'est-ce qui peut faire que je peux bénir Dieu? Et alors, on a ce récit encore dans la Genèse d'Abel et Caïn. Et l'offrande à Dieu, n'est-ce pas? Cette offrande, bon, c'est pas toujours... Abel est venu apporter une offrande, il a porté donc un agneau. Caïn est venu, il a travaillé la terre, il a apporté aussi les prémices de tous ces récoltes. Et le texte nous dit que Dieu regarda, alors encore une fois regarda favorablement à l'offrande d'Abel. Et il ne nous a rien dit sur celle de Caïn. Et pour ça, il faut... Ça va, je vous... Ok, vous êtes à l'aise? Ça va? Je ne veux pas parler pour... Donc l'offrande de Dieu, et des fois, nous aussi, on pourrait se dire, mais Seigneur, est-ce que tu, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je t'apporte, je veux te bénir. Et on peut se dire, mais quand même, Caïn, il est venu, il a apporté ces choses-là devant Dieu. Mais ce que Caïn a apporté n'était pas agréable aux yeux de Dieu, et ce n'était peut-être pas par rapport à Caïn en lui-même, mais par rapport à ce qui était là. Et on sait que le fruit de la malédiction, ça a été la malédiction de la terre. Et la malédiction de la terre, c'est quelque part, il nous est dit que à la suite de cela, l'homme souffrira pour cultiver sa terre. Ça veut dire quoi? Qu'il devra y mettre du sien pour travailler la terre. Il devra transpirer. Il devra faire beaucoup de choses pour transpirer la terre. Et le fruit de cette transpiration, le fruit de ses efforts, c'est ce que Caïn apporte devant Dieu. Le fruit de cette terre qui a été maudite par Dieu, c'est ce que Caïn apporte devant Dieu. Le problème, ce n'était pas lui, en lui-même, mais ce que Caïn apporte devant Dieu, c'est ce qui est propre à ses propres œuvres. Ce sont ses œuvres, c'est ce que lui a fait. Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, j'ai beaucoup travaillé, et ça, ce travail, je l'apporte devant toi et je te l'offre. Et voilà qu'Abel amène, lui, un agneau, qui lui a demandé peut-être pas beaucoup d'efforts, si ce n'est celui de le garder, encore que c'était un jeune agneau, c'est un premier-né aussi, c'est pareil. Souvent c'est ça, l'offrande des premiers-nés de son troupeau. Et que lui, il trouve faveur aux yeux de Dieu. Comme ça, ça peut paraître injuste. On peut se dire quand même, Caïn, il a beaucoup travaillé pour pouvoir apporter ça devant Dieu. Il a fait beaucoup d'efforts. Abel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté le fruit de la bénédiction de Dieu. Il a apporté ce qu'il ne pouvait pas lui-même créer, ni faire, ni quoi que ce soit. Et nous pouvons venir avec nos œuvres devant Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu nous juge. Parce qu'il ne nous a pas dit que Caïn a été jugé par Dieu. Puisque Dieu lui a parlé même ensuite, sachant qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Il l'avait tué. Le problème, ce n'était pas que Caïn ne pouvait pas parler à Dieu, ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Simplement, son orgueil avait pris un coup. Parce que Abel, pour lui, Abel était préféré, alors que c'était l'offrande qu'il avait donnée à Dieu, qui avait trouvé la faveur de Dieu. Et dans nos vies, ça peut être la même chose. Le fruit de la terre, c'est le fruit de la malédiction. Et les premiers-nés, c'est le fruit de la bénédiction. Donc pas le fruit de l'œuvre de l'homme, mais celui de la mémoire et du rappel de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre créatrice de Dieu, de ce que Dieu fait. Et on peut se dire, mais comment ça se fait? Moi, je veux pouvoir apporter quelque chose à Dieu. Je veux pouvoir lui apporter quelque chose. Il ne s'agit pas que je me dise, j'ai fait plein de choses, et puis bon, ben, tout ça, finalement, ça ne sert à rien pour Dieu. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui importe. Pour être agréable aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'effort que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu qui importe. C'est la manière dont nous nous laissons entre les mains de Dieu, reposer sur sa grâce, sur la bénédiction de la vie qu'il a placée en nous. Reposer entre ses mains. Savoir que notre vie n'est pas dépendante de nous-mêmes, mais dépendante de Dieu. Ça, c'est la manière par laquelle nous pouvons le bénir. Ça, c'est la manière par laquelle nous pouvons remettre les pendules en l'heure et comprendre que, bien sûr, nous pouvons faire beaucoup de choses, et bien sûr, dans ce que nous faisons, ça peut être agréable à Dieu, mais ça peut être agréable à Dieu parce que nous reconnaissons la valeur de ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que le regard que nous portons sur notre vie n'est pas uniquement donné par ce que nous savons faire, parce que nous pouvons faire. Bien sûr, il faut faire des efforts. Ceux qui sont étudiants, ils ont besoin de travailler pour réussir les études. Hein. Je ne vais pas dire autre chose. Ça peut arriver que Dieu fasse grâce. Moi, j'en ai vécu un petit exemple, je ne raconterai pas. Mais on a besoin de fournir des efforts, bien sûr. Je ne suis pas en train de n'aller pas en sortant, vous dire « Ok, j'ai plus besoin de rien faire. Maintenant, je veux uniquement vivre par la foi. Je ne veux rien faire. » Voilà. Non. C'est simplement où autant le regard de Dieu, le souci de la bénédiction de Dieu, c'est ce regard, où est-ce qu'il se pose le regard de Dieu, autant nous-mêmes, le souci que nous avons, c'est où est-ce que nous posons notre regard. Quelles sont nos priorités dans ce que nous regardons? Où se trouve-t-elle? Est-ce que c'est dans ce que je fais ou est-ce que c'est dans ce que Dieu fait? Est-ce que dans ce regard que je pose sur ma vie, je regarde à tout ce que je suis capable de faire, de tout ce que je suis en mesure de produire? Ou est-ce que je regarde et je cherche à savoir, Seigneur, je regarde ça et je reconnais que là, tu m'as béni. Et je reconnais que dans ce moment-là, j'ai été appuyé par toi, j'ai été épaulé par toi. Et que seul, j'aurais pu peut-être réussir quelque chose, pas aussi bien que si, que lorsque tu as pris en main les choses. Pas aussi bien que lorsque, parce que toute personne est en mesure d'accomplir quelque chose. Toute personne est en mesure de réaliser quelque chose. Et forcément, quand on regarde à ça, on peut se dire, ok, c'est pas mal, c'est un bon chemin. Mais on oublie de rendre gloire à celui qui a accompli la chose la plus grande, celle de nous donner la vie, et de nous donner déjà la vie physique, mais aussi la vie spirituelle par Christ. Abel a offert un premier-né comme une proclamation sur la continuité de la bénédiction de Dieu, malgré que la vie soit devenue difficile par la chute d'Adam. Il a continué à proclamer que Dieu agissait, que Dieu faisait des choses. Cette vie qui était là, cet agneau qui était là, sans tache, qui était innocent, cet agneau qui était là, c'était cette vie qui était reconnue comme étant l'œuvre de Dieu. Que la vie soit devenue difficile, ça c'est une réalité, mais c'est à l'homme qu'il appartient de continuer à proclamer sa dépendance de Dieu, à proclamer que Dieu est son tout. Le terme pour de bénir au sens de l'homme, c'est aussi le même mot, c'est aussi barar. Mais barar a deux sens. Il y a deux manières, avec les mêmes consoles, les mêmes consonnes, on peut dire aussi autre chose. Berer, c'est genou. Ce sont les genoux. Et ça, c'est la bénédiction que Dieu peut apporter, que l'homme peut apporter à Dieu. C'est savoir plier son genou au même sens que la bénédiction de Dieu. Berer, les genoux, barar, bénir. Psaume 95, verset 6, et on va lire, tiens, du verset 7, 1 à 7. Allez, on va le prendre. On va ouvrir un peu la Bible. Venez, donc psaume 95, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Il est question dans ce passage de s'humilier, de fléchir le genou, de reconnaître, de proclamer, de louer la grandeur, la majesté de Dieu et la gloire de son nom. Ça, c'est le travail qu'il est donné à l'homme de faire à l'égard de Dieu. Ça, c'est l'œuvre auquel Dieu s'attend. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de problème. Il sait qu'il est à la source de toute chose. Et bien des gens l'oublient, c'est sûr. Mais quand un croyant, quand quelqu'un qui vient devant lui, ne vient pas seulement pour lui demander, mais vient pour lui dire, Seigneur, je reconnais que tout ce que je vois, tout ce qu'il y a autour de moi, la terre, les cieux, toutes ces choses-là, je reconnais qu'elles ont été faites de ta main, que c'est toi qui as créé toutes ces choses, alors on proclame une chose très simple, on proclame la vérité. C'est la vérité que Dieu nous demande de proclamer. C'est pas pour se gargariser de dire « oui, je suis celui qui a tout créé ». C'est pas pour dire « c'est pas ça ». Dieu n'est pas dans cette démarche-là. Il n'est pas dans cette démarche qui est propre à l'homme, qui est de s'enorgueillir de tout ce qu'il est capable de faire pour se mettre en valeur. Il n'est pas dans cette démarche-là. Mais Dieu est à l'origine de toute chose, et ça c'est un fait. Ça c'est une réalité dans laquelle tout croyant, tout homme, toute femme, doit pouvoir à un moment donné être en mesure de rentrer. Cette réalité qui nous amène à reconnaître que Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons connaître, de toutes ces montagnes qui peuvent s'élever devant nous, de toutes ces collines, de toutes ces pentes que nous avons à gravir dans la vie. Au-dessus de tout cela, Dieu se tient. Et même s'il y a une montagne, son regard peut se poser sur nous parce qu'il est au-dessus de ça. Même s'il y a un obstacle à nos yeux, son regard peut se poser sur nous parce qu'il est au-dessus de tout cela. Parce qu'il est au-dessus de tout, même les échecs qu'on peut considérer. Louer la grandeur et la majesté de Dieu, la gloire de son nom. Plier les genoux. Comme cet animal qui va s'agenouiller pour boire de l'eau. Comme celui qui s'incline devant son maître. Qui s'incline devant plus grand que soi. Savoir que nous sommes petits, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Beaucoup de gens combattent l'idée « je suis petit ». Alors si c'est pour se dévaloriser, bien sûr, c'est pas bien. Mais si c'est pour dire « je suis petit », compte tenu de la grandeur de Dieu, de tout ce qu'il a fait, de l'univers, de toutes ces choses extraordinaires, et y compris les choses grandes et majestueuses, y compris les choses tellement petite qu'on ne le voit même pas à l'œil nu, de toute cette harmonie qui est là, dans le cosmos, dans la vie, dans notre quotidien, et auquel nous, on ne se rend, dans lequel, vis-à-vis de quoi, on ne se rend même pas compte. On regarde notre vie, des fois par rapport aux défauts qu'elles peuvent avoir, que par rapport à la grâce que Dieu y a placée, et la joie que Dieu a de nous regarder. Et de voir notre vie évoluer dans le bon sens. J'ai eu à discuter avec des personnes sur le pardon. C'était sur Internet. Personnes qui ne sont pas croyantes. Et c'est assez étonnant de voir comment les personnes conçoivent le pardon. Il y a toujours cette amertume souvent derrière de vengeance. De vouloir tenir à ce que moi je suis. Et par rapport à certains. Quand il y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, comme des viols, des choses comme ça, c'est, on peut comprendre que ce ne soit pas facile. Mais ce sont des notions dans lesquelles, quand Dieu parle du pardon, il parle de la libération que l'on trouve à pouvoir se détacher de cette emprise que le diable, dans laquelle le diable a voulu nous placer. Se détacher pour pouvoir lever les yeux, lever le regard, avancer, et regardez ce que Dieu fait de beau. Et ce que le diable fait, nous le laissons derrière. Nous le laissons derrière parce que nous savons, déjà pour nous-mêmes, que le pardon, c'est une puissance qui libère. Ce n'est pas la notion de justifier. Souvent, on confond pardonner et justifier. C'est pas cette notion-là. C'est pardonner pour dire aussi « j'avance au-devant avec Dieu, sans attache, sans être inquiété par ces accroches que le diable a voulu placer sur ma vie. Je ne veux pas que le diable s'accroche à ma vie Parce que Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. Et si quelqu'un me fait du mal, je lui pardonne. Si quelqu'un veut m'abattre, je lui pardonne. Si quelqu'un veut me frapper, je lui pardonne. Pas dans l'idée de le justifier, pas dans l'idée de dire ce que lui fait, c'est bien. Mais dans l'idée de courir vers Dieu, de courir vers sa justice, de s'en remettre à ce que lui sait faire de bien. Parce que même lorsque Saül, qui était alors Saul de Tarse, persécutait des chrétiens, Dieu a su le toucher. Parce que des hommes ont prié par rapport à ça. Parce que des hommes ont fléchi le genou et ont proclamé la puissance de Dieu. Proclamer la puissance de Dieu, c'est ce que redoute le diable. Et c'est l'œuvre de l'homme dans cette création, de bénir Dieu autant qu'il sait nous bénir. C'est savoir devenir faible et vulnérable pour laisser Dieu passer au-devant de nous. Pour le laisser passer au-devant de nous et avoir raison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand deux personnes se disputent, alors peut-être on peut se mettre en situation, deux personnes se disputent, d'accord ? L'une crie tout ce qu'elle peut en lui reprochant à l'autre un tas de choses, l'autre reste calme. De point de vue extérieur, qui a raison et qui a tort ? Mais en général, on a tendance à penser que celle qui est calme, la pauvre. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est elle qui a raison. Ça peut être stratégique. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais Dieu nous appelle à avoir cette paix dans notre cœur, qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est savoir se garder dans notre corps. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est mal, quand on se dispute tout ça, ou autre chose, ben, après il y a le... D'accord ? On a le torboyau, on a tout autre chose. C'est pas que avoir raison. Le corps aussi réagit par rapport à ça. Et Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut prendre soin de nous. Et il veut nous bénir corps, âme, esprit. Et donc souvent, quand on prend deux personnes comme ça, on se dit, mais je dirais plutôt que c'est la personne qui reste calme. Là, quand même, elle est la pauvre. Et en fait, finalement, on ne sait pas forcément. Parce que nous-mêmes, quand on se dispute, quand on est en colère, on peut être amené à lever le ton, à lever la voix pour dire « Non, mais c'est pas juste !» Mais je me suis souvent dit, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas juste, parce que mais finalement, l'impression qu'il peut y avoir à la fin, bah, une personne qui reste calme, les politiques savent très bien faire ça. C'est vrai. Ils savent très bien faire ça. Quelqu'un qui leur parle avec virulence, tout ça, il reste calme. Et finalement, l'impression qu'il y a derrière, c'est que bah, il y a un agitateur, puis il y a l'autre, bah, finalement, on pourrait presque lui donner raison, quoi. En dépit des idées ou en dépit de toute autre chose. Bon, revenons à notre sujet. Osée, chapitre 14, verset 2, nous dit « Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. » Nos lèvres. Deux Chroniques, chapitre 5, verset 13, c'est un passage que j'aime bien, vous savez, quand il y a tous les chantres qui louent Dieu avec les timbales, avec tout un tas de choses. Ils font beaucoup de bruit, ça casse les oreilles, ça peut casser les oreilles, mais au milieu de tout ce vacarme, la nuée de Dieu est descendue et les gens ne pouvaient même pas tenir. Tellement la gloire de Dieu était présente au milieu d'eux. Deux Chroniques, chapitre 6, verset 13, nous dit « Ils se mitent à genoux devant toute l'assemblée. » Ensuite, dans Hébreux, au chapitre 13, verset 15, alors je passe un peu les passages. Hébreux, chapitre 15, verset 13, verset 15, il est dit « Par lui, par Jésus, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » C'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Appeler quelqu'un par son nom, c'est le connaître. C'est être proche de lui. Nous pouvons parler de Dieu, surtout lorsque nous sommes proches de lui. Et bénir s'inscrit dans cette relation. Bénir Dieu s'inscrit dans cette relation de proximité. Cette relation qui déjà, Dieu à l'égard des hommes, a inscrit cette relation à travers, en parlant de Noé comme serviteur, d'Abraham comme son ami, de Christ qui a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. » Christ nous a inscrits dans cette relation qui consiste à confesser ce que Dieu fait, à confesser les actions. Et il s'agit d'une action réciproque de prospérité et de gloire. Une interaction dont le centre, et on peut même parler d'épicentre, parce que c'est un grand boom, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu a pour nous, et c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Et c'est ce qui ne se définit pas forcément par des mots, c'est ce qui ne se définit pas forcément par ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire, mais c'est ce qui peut trouver une raison dans ce que nous sommes, dans ce que Dieu a fait pour nous, dans ce que Dieu a accompli, l'amour qu'il a accompli au travers de ce premier-né de Marie, Jésus, Dieu fait homme, qui a donné sa vie pour nous, qui a été jusqu'au bout, de ce que l'homme lui-même, des fois même, ne ferait même pas, de donner sa vie pour son prochain. Christ a donné sa vie, il a porté nos péchés. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Est-ce qu'il s'agit de nos intérêts, c'est-à-dire Dieu bénis-moi, fais-moi du bien, ou est-ce qu'il s'agit des intérêts de Dieu? Est-ce qu'il s'agit de ce que Dieu fait, de ce dans lequel nous voulons voir l'œuvre de Dieu prospérer? Nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer. Et notre vie trouve son sens dans un rail qui est conduit par Dieu, et dans lequel nous avons tout loisir de nous exprimer aussi. Ça, on n'est pas comme les pantins. Psaume 37, verset 4, dit « Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » On le connaît, hein ? On aime bien ce passage. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de dire ce passage, j'entends que tout le monde répète après. Parce qu'on aime bien ça. Fais de l'Éternel tes délices. Et après, on verra. Matthieu 6, verset 23 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc c'est bien une histoire de regard. C'est bien une histoire de là où je mets ma priorité. C'est bien une histoire de savoir ce que je fais passer en premier dans ma vie, et ce que je fais passer en premier lorsque c'est Dieu, lorsque je me soucie des besoins de Dieu. Alors Dieu se soucie de mes besoins. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, il ne s'en soucie pas, mais peut-être il s'en inquiète. On va prendre un dernier passage dans Philippiens. Au chapitre 2, c'est un passage magistral que j'aime, j'apprécie, j'aime vraiment à lire. Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si toute langue est en mesure de confesser que Christ est Seigneur, c'est parce qu'elle a déjà fléchi le genou devant Dieu. Et toute la création sera amenée à fléchir le genou devant Dieu. Parce que la vérité, c'est que Dieu est Dieu. Que Dieu est au-dessus de toute chose. Que ce que Dieu a accompli, l'homme ne peut pas l'accomplir. Mais ce que Dieu peut accomplir dans la vie d'un homme, l'homme lui-même, des fois, ne sait pas l'accomplir. On peut faire beaucoup de choses, mais laisser agir Dieu dans notre vie. Le regarder, nous sortir de tellement de situations des fois intricables, c'est une grâce dans laquelle on peut tourner notre regard et dire « Seigneur, je te loue, je te bénis ». Fléchir notre genou, c'est le commencement, j'ai envie de dire, de la sagesse. C'est le commencement de cette gloire que nous proclamons à l'égard de Dieu et de cette bénédiction qu'en retour, il est en mesure de faire dans nos vies, de propager dans nos vies. Amen. Prions. Seigneur, tu es le Dieu suprême. Les hommes se font beaucoup de Dieu. Mais toi, tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Au-dessus de toute croyance, Seigneur, au-dessus de ce que les hommes inventent, toi, tu existes de toute éternité. Dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, Seigneur, le regard de l'homme se perd, mais le tien, Seigneur, est perçant bien plus profondément que le nôtre. Et nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous en remettre à toi, parce que tu règnes dans les cieux célestes, parce que tu es au-dessus de toute montagne, parce que tu es au-dessus de toute vie sur terre, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es puissant, que tu es grand, que tu es triomphant, Seigneur, même dans nos vies, Seigneur, parfois misérables. Seigneur, toi, tu règnes. Dans l'éternité, Seigneur, tu nous propulses par ta bénédiction, parce que c'est ta grâce qui s'exprime, parce que c'est ton amour qui parle, et parce que, Seigneur, nous voulons fléchir le genou devant toi. Nous voulons nous en remettre à toi, savoir reconnaître que nos vies sont faibles, que nos vies sont petites, Seigneur, mais que toi, tu es grand, mais que toi, tu es digne, Seigneur, de nos louanges. Tu es digne, Seigneur, que nos cœurs se plient, Seigneur, que notre corps entier fléchisse, que nos vies, Seigneur, soient courbées, Seigneur, même par toi. Seigneur, pour que ta gloire, Seigneur, soit proclamée, pour que les hommes reconnaissent que tu es Dieu, que tu es vivant, que notre orgueil, Seigneur, soit diminué et que tu grandisses, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Sur ce, soyez bénis. Est-ce qu'il y a un... En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce et de ce regard juste porté sur lui, avant toute chose, comme ce regard qu'il porte sur nos vies. Amen.